Culture d'Islam par Ghalib Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlerons du rêve, de l'univers onirique, de toutes les interprétations des rêves en islam. Et pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter, chers amis auditeurs, Pierre Laury. Pierre Laury, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et vous êtes un fin connaisseur et spécialiste de la mystique islamique. Et vous connaissez ces questions relatives aux rêves et à l'univers onirique. Qu'est-ce qui vous a poussé, incité, comment êtes-vous amené à composer un ouvrage sur ces questions du rêve ?
C'est-à-dire que je me suis intéressé depuis de longues années à la mystique musulmane et donc ai été amené à lire les œuvres des grands mystiques, ce qu'on appelle les grands mystiques, des gens comme Ibn Arabi, comme Hallaj. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, je me suis dit que, bien sûr, c'était des grandes figures, mais des grandes figures d'exception. Est-ce qu'il ne pouvait pas exister quelque chose comme une expérience mystique pour les croyants ordinaires? Est-ce que cette expérience de contact avec le divin était véritablement réservée à une minuscule élite, à des gens d'exception? Et arrivant à lire des commentaires d'un hadith, une parole du prophète, qui dit que le rêve est une 46e partie de la prophétie, je me suis demandé s'il n'y avait pas là matière à explorer, disons, un rapport intime, personnel ou surnaturel, au fond accessible à tout un chacun, oui. Puisque tout un chacun rêve.
D'emblée, la question de la part 46e, vous la discutez aussi, vous dites est-ce que effectivement il s'agit de 46 parts et qu'il n'y en ait qu'une seule, ou c'est un grand nombre ? En tout cas, il y a matière à débat.
Oui, en fait, il y a plusieurs variantes dans ce hadith. Certains hadiths parlent de 70 parts. En fait, malgré tous les commentaires, souvent un peu numérologiques sur les raisons de ce 46, à mon avis, on n'arrive pas à dégager un sens précis. En tout cas, c'est une part.
En tout cas, le rêve est ou serait une part de la prophétie, minime, certes, mais une continuation de la prophétie. C'est par le rêve que les croyants musulmans continuent à dépasser l'idée du scellement de la prophétie.
Tout à fait. Au fond, on a parfois tendance à penser que au fond, le prophète Mohammed est décédé en 632 et que depuis, il n'y a plus rien à vivre, que plus rien à connaître, qu'il n'y a qu'à explorer le Coran et puis les dires du prophète lui-même. Mais en fait, si on prend au sérieux non seulement ce hadith, mais toute une série de paroles coraniques et du hadith sur le rêve, sur le fait que le rêve authentique peut être un message divin, on s'aperçoit donc que depuis 14 siècles, il y a eu un très grand nombre de croyants qui ont reçu des messages. Et le terme du hadith, que le rêve est une partie de la prophétie, semble donc indiquer que le rêveur qui reçoit un rêve vrai, bien sûr, pas n'importe quel rêve, se trouve dans la même situation que le prophète lorsqu'il recevait une révélation.
Et dans la révélation coranique elle-même, quel est le statut du rêve, du songe, de la vision?
Le Coran fait mention à plusieurs reprises de rêves qui ont une importance décisive, puisque c'est par un rêve que il aurait été demandé à Abraham de sacrifier son fils, par exemple. Donc le rêve est le lieu d'une révélation même. Il y a tout l'épisode des rêves interprétés par Joseph dans la 12e sourate. Et ceci fait écho au vécu même du prophète. Le Coran parle de plusieurs de ses rêves. Et au fond, dans la vie du prophète, dans la Sira d'Ibn Hisham, il est même raconté que la toute première révélation a eu lieu pendant un sommeil. C'est-à-dire que la contiguïté entre le rêve à l'état de sommeil et à l'état de veille, enfin, est complète. Oui.
La Sira étant, je le dis pour les auditeurs et auditrices, une sorte de curriculum, une biographie, parfois améliorée ou magnifiée. D'aucuns parlent même d'une légende dorée. Donc du coup, d'emblée et très tôt, la notion du rêve est quasi consubstantielle à la mission prophétique.
Tout à fait. On peut tout à fait, dès le départ, avant même les premières révélations, donc cette Sira raconte que le prophète aurait eu des rêves annonciateurs, que sa prophétie aurait été annoncée par d'autres rêves, d'autres personnes, païennes du reste, ou d'autres religions. C'est-à-dire que vraiment, il y a une confluence de tous les phénomènes oniriques vers la prophétie, que tous y participent finalement. Et ça renforce l'idée que l'état de sommeil n'est pas un état d'engourdissement de la pensée. Le sommeil profond est un autre état de veille. Enfin, c'est une autre conception.
Dans le sommeil, il y a un bienfait pour les organismes, pour les êtres humains, mais c'est aussi un autre état de la conscience.
C'est un autre état de la conscience et qui peut être le moment d'une rencontre avec le surnaturel. Le vocabulaire arabe et coranique fait la distinction entre l'assoupissement, senna, noas, et le sommeil, le véritable sommeil. Donc l'assoupissement, c'est l'état de passage d'un état de conscience à un autre. Les sens extérieurs se relâchent, s'affaiblissent et ainsi peuvent se réveiller les sens intérieurs qui permettent précisément, éventuellement, un contact avec le surnaturel, c'est-à-dire éventuellement avec l'ange du rêve qui apporte des messages venant de Dieu.
Quelle est, selon vous, Pierre Laurie, la notion du rêve saint, S-A-I-N ? C'est par « il y aurait des rêves qui ne seraient pas saints »
Oui, la tradition musulmane, dès la littérature de hadith, souligne bien la différence entre, d'une part, les rêves ordinaires, qui s'appellent la conversation de l'âme. C'est des renvois de la mémoire de la veille qui apparaissent dans le sommeil. C'est des rêves ordinaires qui n'ont rien de neuf à dire. Il y a aussi des rêves qu'on appelle des susurrements sataniques, c'est-à-dire qu'il y a des impulsions vers de peur, de doute, d'angoisse qui surgissent dans le rêve. Et là, ce n'est pas non plus d'origine divine. Et puis, la troisième catégorie, qui seule d'ailleurs intéresse l'onirocritique musulmane, c'est ce qu'on appelle les rêves saints, S-A-I-N, et qui, eux, peuvent apporter un véritable message. Alors, bien sûr, on peut se demander, mais comment savoir qu'est-ce qui fait la différence entre les trois? L'explication de la littérature onirocritique, c'est de dire, lorsque vous avez un rêve, disons, d'origine satanique, vous vous réveillez, vous êtes complètement angoissé, apeuré, obscurci. Lorsque vous avez un rêve ordinaire, vous l'oubliez très vite. Mais ce qui marque le rêve saint, au fond, c'est qu'il apparaît très clairement, très fortement, et qu'on s'en souvient.
Oui. Toujours dans la phraséologie coranique et dans la révélation, il y a une distinction faite aussi entre ce qui est présenté comme un amoncellement ou un empilement ou un tas de rêves. Là, c'est plutôt une approche dépréciative d'une vision et d'un songe ou d'un rêve, auquel cas vous le qualifieriez de rêve saint.
Voilà, c'est ça. L'amoncellement de rêves, qui est effectivement mentionné dans le Coran, c'est l'idée d'un rêve qui ne fait pas sens, soit parce qu'il n'y en a pas, c'est simplement un renvoi de souvenirs pêle-mêle, soit parce qu'on n'a pas trouvé l'interprétation. C'est ainsi que les interprètes égyptiens du rêve de Pharaon dans l'histoire de Joseph, Pharaon qui rêve d'être des vaches maigres, des vaches grasses, ils n'y voient pas de sens. Et donc pour eux, ce sont des amas de rêves. Alors que Joseph, lui, il y apporte la cohérence.
Du coup, le rêve devient un support de l'activité ou voire de l'élévation spirituelle.
Voilà, c'est ça. Et alors là, on rentre dans un domaine encore différent, ou en tout cas contigu, qui est le rêve spirituel ou mystique, dont la logique est la suivante, au fond. Tous les hommes sont sur Terre, d'après le message coranique, pour vers leur salut, pour se perfectionner, se bonifier, se rapprocher de Dieu. Mais comment savoir où nous en sommes? Or, ce que disent notamment les mystiques, les soufis, des gens comme Ibn Arabi, c'est nous pensons vivre dans un monde cohérent, nous pensons que le monde qui nous entoure, ben, on le conçoit de façon lucide. Or, ce n'est pas vrai du tout. Nous sommes dans un monde que nous ne comprenons absolument pas, non seulement d'un point de vue matériel, mais parce que nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu sur notre condition actuelle. Et si nous voulons nous rapprocher de Dieu, il faut avoir une plus grande lucidité. Et cette lucidité, c'est le rêve qui peut nous l'apporter, parce que précisément, quand on sort d'un rêve, on comprend bien que le rêve n'est plus là, et qu'on passe du rêve nocturne au rêve diurne, qui est notre vie quotidienne, et que ce rêve nocturne peut nous éclairer sur le rêve diurne.
Alors vous avez cité à deux reprises Ibn Arabi, le plus grand maître. Nous aurons à y revenir avant la fin de l'émission, dans son imagination à lui, dans son rêve à lui. C'est un homme à la charnière du 12e-13e siècle, en 1165 à Murcie, 1240 à Damas. J'ai donné les deux dates de sa naissance et de sa mort. Mais avant lui, les mystiques, les ravis, ceux qui ont été ravis à eux-mêmes, sont en rêve permanent alors.
Absolument, absolument, ils font référence d'ailleurs à un verset coranique qui dit que les âmes des humains sont prises par Dieu pendant leur sommeil. Parfois elles sont gardées là, et c'est le décès. Mais il y a certaines âmes de mystiques qui se sont rapprochées de Dieu, qui ont été éblouies et qui n'ont pas pu réintégrer ce que j'appelais le rêve diurne, la vie ordinaire. Et c'est pour cela que la tradition musulmane générale respecte quand même beaucoup les démons, une certaine catégorie de fous qu'on considère ravis, parce qu'au fond, ils seraient dans un état d'extase permanent. Et cet état d'extase ne serait pas faux, ne serait pas illusoire. D'une certaine manière, ils auraient déjà intégré une dimension paradisiaque, d'où l'intérêt de les respecter.
Donc du coup, ceux-là sont ou seraient dans un éblouissement permanent et un émerveillement sans fin.
Absolument. C'est Ibn Khaldoun, donc le grand penseur maghrébin du XIVe siècle, qui a beaucoup réfléchi sur ces questions de rêve, de divination, de paranormal, avec une profondeur, vraiment une cohérence tout à fait surprenante. Et il s'est posé la question, peut-on considérer que le fou soit un saint, S-A-I-N-T. Et il répond par la positive en disant qu'au fond, l'homme a deux faces dans sa raison, une face raisonnable pour se guider dans la vie, pour sa subsistance, et une face pour se rapprocher de Dieu. Les fous, bon, ils ont perdu le contrôle de la première, mais ils restent raisonnables, au fond, dans ce que la raison a de plus élevé.
Alors, quand vous parlez de ce passage coranique où Dieu reprend les âmes, certaines restent auprès de lui, c'est le trépas, et d'autres réintègrent l'enveloppe charnelle, mais elles vont où? Toujours dans cette cosmogonie ou cosmologie spirituelle, cette topographie, un peu, si on peut dire, elles iraient où?
Les différents auteurs, soit philosophes, soit mystiques, ont des visions parfois très différentes de cet intermonde, de ce qui sépare au fond la présence divine que personne, qui est inaccessible, auquel personne n'a accès, et le monde terrestre. Ce monde intermédiaire est parfois décrit comme un monde céleste, comme un étagement de ciel, de cieux différents, que le rêveur traverse jusqu'à arriver aux cieux supérieurs où serait conservé ce que la tradition musulmane appelle la tablette gardée, qui serait une tablette sur laquelle seraient gravés tous les destins des hommes. Et donc, l'âme accomplissant pendant le sommeil cette ascension céleste pourrait avoir accès, au fond, à l'écriture de son propre destin, et donc revenir après, au moment du réveil, et à ce moment-là, avoir un message pour l'avenir proche.
Et donc c'est sur cette tablette, ou cette table gardée, préservée, qu'il y a aussi l'archétype céleste de la parole de Dieu.
Oui, Oui, de toute la parole de Dieu. Évidemment, bon, c'est une expression assez mythique parce qu'on ne sait pas très bien comment représenter la forme de cette tablette et même son contenu réel. Parce que, au fond, est-ce que cela signifie que nos actes soient vraiment tous prédestinés? Il y aurait là quelque chose qui entamerait la responsabilité de l'homme. Or, la plupart des rêves saints et saïennes dont il est question, c'est soit des encouragements, disant au rêveur, oui, c'est bien, continue dans cette voie-là, ou bien au contraire, des menaces en disant, non, là, tu t'enfonces dans l'erreur, le vice, l'hérésie.
On va venir à cette notion de l'enseignement par le rêve et qui est continuateur pour une part de la prophétie, mais cet intermonde a un nom, on l'appelle le barzakh, qui est une sorte d'isme d'un état intermédiaire, un lieu aussi entre le lieu dans lequel les esprits se corporalisent et les corps se spiritualisent.
Tout à fait. Et là, il faut reconnaître que c'est chez Ibn Arabi encore que l'on trouve la conception la plus complète, disons, de cette dimension intermédiaire, une dimension où les formes ont un corps, mais un corps subtil. Donc les âmes, ils sont transportés, mais en ayant toujours une forme. Ce n'est pas le monde immatériel des anges incorporels. Et Ibn Arabi explique, au fond, que cette imagination, qui est une imagination cosmique, qui est là où vivent les anges, les âmes à naître, les âmes des défunts, c'est à partir du moment où l'âme individuelle arrive à se relier à cette imagination cosmique, à ce moment-là, l'âme individuelle peut rencontrer des anges, peut rencontrer des prophètes qui ont vécu jadis, notamment le prophète Mohammed lui-même. Et alors donc, ça ouvre, disons, une dimension extrêmement vaste, disons, à la méditation et à l'expérience visionnaire.
D'autant plus que le prophète lui-même en butte avec ses contribules, certains lui disaient ou formulaient le grief que ce qu'il venait annoncer n'est aussi que le produit d'un amas ou d'un amoncellement de rêves, comme le faisaient des poètes avant lui. Donc les poètes, dans la période anté-islamique, rêvaient.
Oui, alors on parle plutôt, dans le cas des poètes, de djinn, c'est-à-dire d'esprits élémentaires terrestres qui venaient leur inspirer des paroles de façon qui semblait tout à fait surprenante, des paroles rythmées, bon, la poésie, bref. Dans le cas des objections dressées contre le prophète, il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de prophètes, c'est-à-dire que peut-être chaque tribu avait un prophète qui avait des révélations, qui affirmait avoir des révélations d'en haut, éventuellement de la part d'esprits angéliques. La nouveauté du prophète Mohammed, c'est d'affirmer qu'il était le prophète, pas seulement pour une tribu, pas seulement pour un peuple, mais qu'il avait une mission beaucoup plus universelle.
Et avant le début de son ministère apostolique, parmi les signes prodromiques et avant-coureurs de sa mission, c'était aussi, vous l'avez dit en début d'émission, une période où il rêvait beaucoup.
Il rêvait très intensément et visiblement pour lui, le rêve était vraiment le lieu de rencontre avec les messagers de l'au-delà. Et lui-même, et c'est aussi fondamental pour la science musulmane des rêves, lui-même a dit dans un hadith, qui est attesté par de nombreux témoins, celui qui me voit en rêve me voit réellement, parce que Satan ne peut pas prendre ma forme. Alors, cela signifie donc que depuis le décès du prophète, en fait, aux yeux des musulmans croyants, bien sûr, il reste extrêmement présent, puisque nombreux sont ceux qui l'auraient vu, qui l'auraient...
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Culture d'Islam et ce matin nous parlons du rêve, de l'univers onirique avec Pierre Laury, fin connaisseur de ces questions et de la mystique islamique. Pierre Laury, celui qui a l'aptitude, la capacité, le don d'interpréter, de décrypter les rêves est dépositaire d'une science sacrée.
On peut le dire, oui. Alors, l'onirocritique est une science qui est un peu à mi-chemin entre les sciences religieuses et les sciences profanes. Dans ses prolégomènes à l'histoire universelle, Ibn Khaldoun précisément présente toutes les sciences. Il parle des sciences le droit, les sciences religieuses d'une part. Et entre les sciences religieuses et les sciences profanes, il situe l'onirocritique parce que elle est religieuse, elle est légitime, puisque il y a des prophètes comme Joseph qui l'ont exercé. Mais en même temps, ce n'est quand même pas une science démonstrative complètement. Pourquoi? Parce que les onirocrites, donc, qui, comme vous le dites, sont des savants, ont une responsabilité énorme, sont censés avoir une culture religieuse qui leur permet d'établir les correspondances entre le contenu des rêves et les écritures, Coran, Hadith, etc. Ces onirocrites, malgré tout, se heurtent à des questions d'interprétation parce que chaque rêve reste complètement individuel. Donc il y a cette espèce de synthèse d'herméneutique du rêve qu'il faut élaborer parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il y a un imaginaire finalement commun à l'humanité, et d'autre part, une expérience irréductible à l'individu.
Et l'approche, ou l'onirocritique, elle est plus expérientielle qu'expérimentale.
On peut le dire, oui.
Finalement.
On peut le dire.
Le terme arabe évoque une notion de passage. C'est exprimer, mais en réalité passer quasiment d'une rive à une autre, ou d'un monde à un autre.
Tarbir, c'est au fond faire passer l'image du rêve à un concept, à une idée, et aussi à l'appliquer donc dans les actes.
La révélation elle-même, finalement, c'est quoi? Une inspiration directe? Lui, Massignon, parlait d'un dictus surnaturel, une sorte de dictée, ou c'est aussi dans un état, disons, de rêve? On te met une rêverie à la Gaston Bachelard.
La révélation
coranique, en l'espèce, coranique. Pour le prophète Mohammed.
Ah, pour ce qu'on en sait, c'est difficile à établir, en fait, parce que tantôt il entendait, donc une voix, c'était le plus souvent, tantôt il affirme avoir vu devant lui un être surnaturel qui est identifié à l'ange, précisément l'ange Gabriel. Mais en fait, les données sont nombreuses et ne sont pas homogènes. Donc, il est difficile de savoir à quoi cela revenait. Tantôt, on a l'impression qu'il y avait des sourates entières qui étaient révélées. Tantôt, la tradition nous dit que tel verset a été révélé individuellement dans telle circonstance particulière. Et donc, il est un peu difficile de se faire une idée, disons, d'un point de vue de l'historien.
Pierre Laury, quand vous disiez là tout à l'heure que les prophètes rêvaient, et on a l'exemple du rêve d'Abraham, qui voyait en songe qu'il avait à immoler son fils et qu'il l'interrogeait, et le rêve de Joseph aussi, sont-ils du même ordre? Dans un cas, il y a quasiment une injonction, et dans l'autre, il y a une sorte de mise à l'épreuve, un test.
Oui, effectivement, dans le cas d'Abraham, la sourate pose véritablement problème, parce qu'Abraham ne dit pas qu'il a reçu l'ordre. Abraham dit à son fils, j'ai vu en rêve que je t'ai sacrifié, qu'en penses-tu? Et donc, le fils répond, fais ce qu'il t'a été ordonné.
Mais, et tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, parmi ceux qui sont patients.
Exactement. Donc, on interprète cela comme si Abraham avait reçu un ordre. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et Ibn Arabi lui-même dira dans ses J'aime de la sagesse, mais au fond, Abraham aurait dû interpréter son rêve. Il ne l'a pas fait. Et cette question de l'interprétation du rêve est quand même fondamentale, comme l'interprétation de notre vie à l'état de veille. Et c'est dans ce sens-là que Abraham s'est distancié de Joseph. Joseph a interprété des rêves qui étaient imagés, qui étaient des symboles. Abraham n'a pas cru bon, si je puis dire, d'y voir des symboles.
Ce ne sont pas que les prophètes qui rêvent, puisque dans le récit de Joseph, Pharaon rêve lui aussi.
Donc Pharaon, roi païen par excellence, si je puis dire, reçoit des rêves et il n'est pas le seul. Or, son rêve était vrai, son rêve était authentique, ce qui, là aussi, pose un problème théologique. Est-ce que des païens, donc, peuvent recevoir des rêves saints, des rêves vrais? Et bon, la question demeure en suspens pour les théologiens, en tout cas.
Donc il y a une typologie ou une catégorie des rêves, ceux des prophètes, ceux de ceux qui peuvent les interpréter aussi, et ceux qui en sont donnés à tout le monde, y compris païens.
Oui.
Si le débat théologique reste dessus.
C'est-à-dire que l'idée fondamentale qui est proposée notamment par le théologien Razali, donc au XIe siècle, c'est de dire les rêves sont les mêmes pour tout le monde. Ce qui fait la différence, c'est que les prophètes et les grands saints ont une âme tellement pure qu'elles reçoivent les rêves de façon extrêmement claire, extrêmement explicite. Alors que plus les croyants sont ordinaires, plus les rêves deviennent embrouillés, peu clairs. Bon. Et s'agissant des païens, ils peuvent recevoir des rêves tout à fait vrais, mais leur âme est encombrée, elle n'est pas, voilà.
L'enseignement prophétique est dans la tradition, et même quand il s'adressait à ses compagnons, et a-t-il insisté sur les fonctions oniriques, sur, vous l'aviez dit, le rêve est une forme mineure de la révélation. Voulait-il les associer, si je puis dire, à sa mission prophétique lors de son apostolat?
Tout à fait, c'est en tout cas ce que suggèrent les témoignages du Hadith et de la Sira, qui racontent que le matin, lorsque les compagnons se venaient à la mosquée, donc évidemment après la première prière, la mosquée qui était contiguë à la maison du prophète, Mohammed commençait par demander si quelqu'un avait fait un rêve. Et souvent lui-même racontait des rêves qu'il avait faits, et parfois donc des compagnons expliquaient s'ils jugeaient important qu'ils avaient fait tel ou tel rêve. Et le cas le plus célèbre de ces rêves, c'est lorsque un des compagnons médinois raconte qu'on lui avait demandé d'appeler à la prière par l'adhan, la formule qu'il y a actuellement. Parce qu'à l'époque, les musulmans n'avaient pas encore de moyens d'appeler au même moment fixe, une époque où les gens n'avaient pas d'horloge. Comment appeler tout le monde à la prière collective? Certains se proposaient des cloches comme faisaient les chrétiens, d'autres proposaient des claquements de cimandre comme les juifs. Et donc, c'est par un rêve que ce compagnon a entendu la formule de l'appel à la prière, corroborée par un deuxième compagnon, Omar. Et donc, c'est par ce double rêve de compagnons qui n'étaient pas des prophètes que aurait été institué, disons, ce rituel de l'adhan.
Bien. Alors, il y a l'exemple, le parangon même du rêve pour certains, musulmans ou pas, il y a parmi les musulmans ceux qui croient en un véritable voyage incorporé, je pense à la chevauchée nocturne et à l'ascension céleste du prophète. Pouvez-vous, Pierre Laurie, à la fois nous rappeler l'épisode en tant que tel et puis l'interprétation de cet événement extraordinaire proprement dit?
Alors cette histoire qui est à peine mentionnée dans le Coran, ou en tout cas en termes vraiment très 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 elliptiques et énigmatiques, est que le prophète aurait été emmené de nuit alors qu'il était à la Mecque, aurait été emmené de nuit par l'ange Gabriel sur une monture céleste de la Mecque vers Jérusalem. À Jérusalem, raconte le récit qui est postérieur et qui comprend de nombreuses variantes, à Jérusalem il aurait prié avec les grands prophètes qui l'avaient précédé. Et puis après, deuxième partie du récit, il aurait accompli une ascension céleste à travers les sept cieux, qui correspond donc à la cosmologie de l'époque, où la Terre était vue au centre de l'univers, et puis sept cieux jusqu'au ciel des étoiles fixes. À chaque ciel, il aurait rencontré un des prophètes, et au septième ciel, il aurait rencontré le prophète Abraham. Et il aurait même traversé le septième ciel pour rencontrer la présence divine elle-même. Et c'est là que...
Dont il s'était tenu à une distance de deux portées d'arc, au moins.
Au moins, selon une référence coranique. Et c'est à ce moment-là, dans ce dialogue entre le prophète et son Dieu, qu'aurait été institué le rituel de la prière. Enfin, c'est en tout cas ce que rapportent certains hadiths. Donc, ce récit est véritablement fondateur de la conscience que les musulmans ont du rôle de leur prophète, qui aurait été comme intronisé à ce moment-là, au-delà, au-dessus de tous les autres prophètes. Et cette expérience qui a eu lieu pendant le sommeil a toutefois été distinguée d'une expérience visionnaire parce que la tradition tient énormément à ce que ce voyage ait eu lieu physiquement. Alors, c'était en tout cas à l'époque. Maintenant, évidemment, vu les conceptions astronomiques, cette conception ne peut plus tenir. Mais en tout cas, à l'époque, on ne pouvait pas l'assimiler à une simple vision onirique. Toutefois, ce voyage a servi de modèle à un grand nombre de voyages célestes chez les mystiques et même chez les non-mystiques, puisqu'après tout, comme on le disait à l'instant, le rêveur... Quand son âme se détache de son corps pendant son sommeil, il traverse lui aussi finalement les sept cieux et il va jusqu'à la tablette gardée. Donc, au fond, ce voyage à travers les cieux qu'a connu Mohammed peut être vécu à une échelle beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble, par de nombreux croyants.
Et plus tard, un auteur, un poète aussi... Mahari, otage de deux prisons, de la cécité, puis il ne sortait pas de chez lui, 973-1057, dans son épître au pardon, on reprend ces choses-là, dont on dit que Dante en a été inspiré, et ça a même provoqué un tollé général qu'il fut celui qui a plagié l'épître au pardon.
Oui. Mais alors là, maintenant, la recherche a quand même pas mal progressé depuis quelques dizaines d'années. On a bien vu la source de Dante, qui est effectivement une source arabe, islamique, puisqu'on sait qu'on a été traduit en castillan et puis en latin, le livre de l'échelle de Mahomet, qui est une des versions, une des nombreuses versions du récit de l'ascension céleste, et qui, donc, ayant été traduite, a été diffusée, et là, maintenant, je pense que les chercheurs sont tout à fait unanimes pour dire que Dante y a puisé une partie du cadre, disons, de l'étagement du ciel, et d'autant que ce texte comporte aussi la visite de Mohammed aux enfers, ou en tout cas, la vue, la vision des damnés.
Oui, et c'est Miguel Assini Palacios qui, dès 1919, donc au siècle dernier, a soutenu sa thèse de doctorat sur ses emprunts et ce que d'aucuns pourraient appeler un pastiche. Pierre Laury, il y a aussi ceux qui disent que le message divin, finalement, est continu. Simplement, il y en a ceux qui peuvent le recevoir par le canal onirique et d'autres n'arrivent pas à le recevoir. Est-ce que c'est différé? Est-ce que ils ont ce privilège ou pas, indépendamment de la prophétie?
Oui, alors évidemment, il y a à travers l'histoire, on sait par les textes, qu'il y a un très grand nombre de personnes qui ont eu des rêves qui avaient une portée religieuse. Mais au fond, on peut dire que pratiquement tous les rêveurs reçoivent des messages. Parce que, bien sûr, tous les rêveurs n'ont pas forcément vu le prophète Mohammed ou Jésus ou Abraham en rêve. Mais au fond, ce qu'explique en tout cas des théologiens comme Razali, c'est que lorsque nous avons un rêve fort, même s'il ne se rapporte pas extérieurement à un objet surnaturel, tout ce que nous vivons sur Terre correspond avec le monde surnaturel. Donc si nous rêvons, mettons, à un homme qui est notre père, ou à notre mère, ou à des soldats, cela peut symboliquement désigner Dieu. Cela peut symboliser, les soldats peuvent symboliquement désigner des anges. C'est-à-dire que, et au fond, quand on voit les grands traités d'onirocritique, on peut voir que des objets tout à fait ordinaires peuvent en fait référer à l'unique finalité du rêve, finalement, qui est d'amener le rêveur au salut. Au
fond. Oui. Simplement l'image soldat lié aux anges, il y a une approche un peu martiale de l'angélologie.
Oui. Ah, oui, mais il faut reconnaître que les anges sont associés souvent aux armées, même dans le Coran, il est question des phalanges angéliques qui ont été présentes à la bataille de Badr. Donc c'est vrai, non, il y a...
Et c'est de, après cela qu'il y avait cette projection de voir les primo-musulmans, en tout cas, revenir au sanctuaire de la Kaaba, à la Mecque, accomplir le pèlerinage. C'était
oui,
un songe que le
aussi,
prophète
c'était aussi un songe, c'était aussi un songe. Et donc, on peut se demander s'il... Enfin, on peut se demander, il est clair que le rêve considéré en lui-même peut être une actualisation de ce message premier. En tout cas, c'est comme ça qu'il est vécu par les musulmans. Même s'il est clair que seul Mohammed aurait fondé une religion qui a une valeur pour tous, qui a une valeur normative, et que le rêve individuel serait une guidance purement personnelle pour un destin individuel ou pour une petite communauté autour de lui.
Et le rêve a aussi une dimension, une portée eschatologique.
Oui, beaucoup, beaucoup. Alors, là aussi, il est tout à fait admis qu'on peut voir en rêve les défunts, par exemple. Que c'est tout à fait... non seulement c'est admis, mais cela peut être important. Il y a des recueils entiers qui sont consacrés à la vision en rêve de parents défunts, de grands-parents, d'amis. Et à ce moment-là, soit... Le défunt vient dire qu'il a une demande, que son tombeau n'est pas bien orienté, il est mal entouré ou que sais-je, ou qu'il y a une dette à régler. Ou inversement, il peut donner un conseil au vivant, sur terre, au terrestre, disons, au terrien, en disant « voilà, je suis maintenant dans une bonne situation parce que j'ai accompli telle prière, j'ai eu tel comportement ».
Oui, et toujours dans ces considérations eschatologiques et de fin dernière, les chrétiens d'Orient, les chrétiens arabes, eh bien, présentent l'Apocalypse comme aussi une vision, une révélation, mais au sens d'une vision.
Oui, c'est comme un dévoilement de ce qui va se passer à la fin des temps. Alors, il y a certains rêves du prophète qui font allusion aux événements de la fin des temps et l'idée qu'à la fin des temps, c'est un hadith, les rêves vrais vont se multiplier. À la fin des temps, le Coran va être oublié, on n'en tiendra plus compte, à tel point d'ailleurs, dit un hadith, que le Coran va remonter au ciel et les anges demanderont « mais pourquoi remontes-tu ?» Et le Coran va dire « il n'y a plus personne qui me lise, qui fasse attention à moi ». Et donc, à la fin des temps, le rêve des croyants seront de plus en plus nombreux et de plus en plus clairs. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça rejoint aussi des prophéties bibliques.
Oui, et donc il y a eu toute une construction théologique en lien avec le rêve. Or, la théologie et l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps, et donc au fur et à mesure que le temps s'écoule, on abonde dans le sens du discours sur Dieu à partir des rêves.
À partir des rêves, effectivement. Et que les rêves, le commentaire des rêves a été un genre pratiqué. Il y a toute une littérature qui est toujours extrêmement lue, extrêmement consultée, et à l'heure actuelle, alimenté par des rubriques des journaux et dans certains endroits par des émissions à la télévision où les gens viennent porter leurs rêves.
Oui. À travers l'histoire, il y en a un qui fera une sorte de synthèse de tout cela. Vous l'avez évoqué, c'est Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins, 1058-1111. Quelle est cette synthèse qu'il a pu faire dans son approche théologique?
C'est-à-dire qu'il se demande, au fond, quand nous voyons un rêve, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que c'est juste une image mentale qui parcourt notre esprit comme ça, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond à une réalité? Et il développe l'idée que tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, vivons ici-bas, est en correspondance avec un monde supérieur. Et donc, tout ce que nous vivons symbolise avec quelque chose. Ce ne sont pas des idées complètement arbitraires. Et de ce fait, si on arrive à comprendre le rêve, à l'interpréter comme il faut, on arrive à comprendre des réalités célestes. Et il s'interroge notamment sur, lorsque nous voyons le prophète en rêve, qui est-ce que nous voyons? Parce que le prophète est donc mort et enterré. Certains voient le prophète sous la forme d'un jeune homme, d'autres sous la forme d'un vieillard. Certains le voient comme un roi puissant, d'autres comme un homme très humble. Qu'est-ce que nous voyons? Et donc, il développe l'idée que nous voyons réellement, enfin, l'image de son esprit, en quelque sorte. La représentation de son esprit qui est réellement lui-même.
Et quand il parle de ces réalités célestes, il y a aussi une topographie, une stratification de différents mondes auxquels on donne des noms, le monde du Jabarut,
du Malakut
et du Malakut. Alors, si vous pouviez nous les expliquer, d'abord l'étymologie des mots et à quoi ils renvoient.
Disons, le terme de Malakut apparaît dans le Coran. Il est sans doute d'origine syriaque, c'est le royaume céleste, et en même temps, la racine évoque la notion des anges. Donc, c'est le monde des anges, mais il faut bien voir que les anges, dans la littérature religieuse de l'islam, les anges sont dotés d'un corps plus subtil que le nôtre, mais ils sont dotés d'un corps, et ce corps mourra comme celui des hommes. Et donc, puisque le monde du Malakut est le monde des anges, comporte lui-même d'ailleurs des étagements multiples, mais c'est un monde organisé, c'est un monde que l'on peut voir, que l'on peut percevoir, et que donc les âmes très pures, les prophètes, bien sûr, il est dit que Abraham a vu le Malakut précisément, ou bien les grands saints, ceux qui ont pu accomplir des voyages célestes, peuvent voir les anges, communiquer avec eux et donc irriguer la vie religieuse et mystique d'eux-mêmes et de leurs disciples.
Et l'autre monde qui est celui du Jabarut, c'est le monde des contraintes.
Enfin, ça dépend des auteurs, mais disons qu'il y a une espèce d'habitude qui s'est établie de désigner par Jabarut le monde des anges intelligibles. La corporéité est tellement subtile, les anges archétypes, que les hommes n'ont pas accès, disons, à leur vision.
Et entre les deux, il y a toutes ces notions aussi d'un monde, du monde de l'imaginal, pas de l'imaginaire, et le regretté Henri Corbin en a beaucoup parlé aussi. Qu'est-ce que c'est que cet intermonde aussi?
Alors, ce que Henri Corbin a désigné par le monde imaginal, notamment à propos de l'œuvre d'Ibn Arabi, dans son livre magistral sur l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi.
Édité en 1958.
Bravo. Oui, et réédité heureusement par la suite. C'est au fond le monde céleste qui jouxte notre monde terrestre dense. C'est cet isthme dont nous parlions tout à l'heure, ce Barzakh, qui est le lieu où les âmes se corporalisent et où les corps se spiritualisent, et qui est précisément le monde de l'activité visionnaire. Donc c'est parce que ce monde imaginal existe que Mohammed ou les autres prophètes ou les saints peuvent voir des anges, peuvent leur parler, peuvent prévoir les événements à venir.
Pourriez-vous dire que c'est une sorte de forme de consolation pour les vivants qui perdent d'être chers, de les voir, de perpétuer leurs souvenirs et de continuer à les voir, et donc ça atténue un peu leur chagrin quand ils les voient en rêve?
Oui, en tout cas, Je ne sais pas ce qu'ils vivent, parce qu'il peut y avoir aussi l'angoisse que le parent ou l'ami est dans une mauvaise, soit dans une mauvaise situation dans l'au-delà. Mais le fait est que c'est quand même un phénomène extrêmement, extrêmement fréquent. Alors, historiquement, disons, il s'est créé une espèce de confiance dans la survie post-mortem, qui d'ailleurs est dans la continuité de pas mal de hadiths qui disent que lorsque l'on s'approche d'une tombe et que l'on salue le défunt vient pour répondre au salut. Ce qui fait qu'il y a une espèce de consensus qui s'est créé sur le fait que l'on puisse faire des prières devant une tombe, étant entendu qu'on s'adressait au défunt, mais que, alors la question par contre qui est débattue, qui est le grand débat entre les soufis et les wahhabites, c'est de dire, peut-on y faire des prières de demande, peut-on y, voilà.
Bien, au fur et à mesure que l'émission avance dans le temps qui s'écoule, peut-on, d'un point de vue cette fois-ci de l'anthropologie du fait religieux, donc on n'est pas dans le cadre de la croyance et de la foi, dire que entre l'onirocritique islamique primitive et l'héritage hellénique, il y a des emprunts, il y a des liens?
Oui, tout à fait. Il y a eu une très, très vaste intérêt pour l'onirocritique antique et biblique, notamment l'œuvre du plus célèbre onirocrite de l'Antiquité, Artémidore d'Éphèse, donc qui vivait en Asie mineure au IIe siècle. Cette œuvre a été traduite au IXe siècle en arabe par le grand traducteur Honayd ibn Ishaq et a été adapté, c'est-à-dire que évidemment il y a beaucoup de le matériel essentiel y a été gardé, mais Artémidore était un fidèle d'Apollon, donc on voit apparaître dans les rêves des toutes sortes de tous les dieux de l'Olympe, toutes sortes de divinités, et lui il a tâché de rendre ça accessible à ses lecteurs musulmans et chrétiens. Alors les dieux deviennent des anges et la totalité des dieux de l'Olympe deviennent Allah, tout simplement.
Allah étant l'appellation arabe de la divinité, c'est comme O Théos, le Dieu.
Le Dieu. Donc, le Dieu.
Pierre Laurie, est-ce que maintenant on peut parler d'une vision de Dieu direct dans les rêves, et si on a vu, qu'est-ce qu'on a vu?
Mais oui, enfin on peut parler d'une vision de Dieu, enfin ce qui peut paraître paradoxal, puisque bien évidemment Dieu n'a pas de corps, mais ceci dit, les théologiens spécifient bien que Dieu n'a pas de corps, mais il peut se donner à voir sous la forme qu'il souhaite. Alors, une forme, un aspect, disons, serait une lumière éblouissante, puisqu'il est dit dans le Coran, la sourate 24, que Dieu est la lumière des cieux et de la terre.
Mais ceci dit, même lumière sur lumière.
Lumière sur lumière. Mais ceci dit, on peut très bien envisager, et donc les exemples sont nombreux, de voir Dieu sous une forme humaine, par exemple, sous la, et d'ailleurs, l'exemple est donné par une des visions fameuses du prophète Mohammed, qui dit, j'ai vu mon Seigneur sous la plus belle des formes. Donc, il décrit ce qu'il a vu son Seigneur sous la forme d'un jeune homme à longue chevelure bouclée.
Et l'histoire du jouvenceau d'Ibn Arabi, puisque j'ai annoncé que nous allions finir par lui au moment où il accomplissait les circumambulations autour du temple de Dieu à la Kaaba. Il y a une identification entre ce jeune homme et Dieu ou...
Oui, on ne sait pas. Alors là, ça reste un passage très mystérieux. Est-ce que c'est une apparition angélique, une apparition de Jésus, on ne sait pas, mais enfin, en tout cas, c'est le type même de la rencontre imaginale, puisque il y a un échange tout à fait profond et qui a l'air de se passer de façon visuelle et auditive autour de la Kaaba.
Quels sont parmi les grands mystiques et les figures emblématiques à travers l'histoire du soufisme? Ceux qui ont rêvé le plus ou qui ont rapporté davantage de rêves?
De façon générale, on peut noter que lorsque nous avons des renseignements sur la vie des grands mystiques, la vie, les rêves comptent énormément. C'est comme si le rêve était un événement dans la vie, au fond, plus important que ce que le fait d'être installé dans telle ville, d'avoir rencontré telle ou telle personne humaine. Et nous avons des sortes d'autobiographies de rêves, comme par exemple le mystique du 9e siècle, Tirmidhi, ou encore, qui venait de l'Asie centrale, ou un autre mystique persan, Rusbehan Bakhli de Shiraz, au 12e siècle, qui raconte leurs rêves. Donc il y a une collection, un recueil de rêves, et chaque rêve marquant une étape dans la vie spirituelle et dans le degré spirituel qui est accordé par Dieu. Et donc, dans ses rêves, ils peuvent voir les prophètes. Dans le cas de Rusbehan, ils peuvent voir Dieu, effectivement, sous une forme humaine.
On rajoute à cela Abdelaziz Al-Dabbar.
Dabbar, en effet, le grand mystique marocain, qui lui aussi a eu une vie onirique. On a vraiment l'impression que le message n'a pas lieu uniquement par des paroles, que le message a lieu par des images. Et c'est là, je pense, une des grandes leçons de la littérature islamique sur le neurocritique.
Et peut-il y avoir d'autres thèmes que ce que nous avons en revue qui sont incontournables? Le prophète ou les prophètes, bien sûr Dieu d'une manière centrale, mais... Les parents, les défunts.
Les parents, absolument. Le sultan, le vizir, les soldats. Mais tout, même le mobilier, la maison, la cour de la maison, tout peut avoir une signification, disons, spirituelle dans le domaine onirique.
Alors, maintenant, nous sortons encore une fois, ce n'est pas de l'anthropologie du fait religieux, mais un dernier mot sur la psychanalyse. Y a-t-il des explications d'ordre psychanalytique par rapport aux rêves, ou on laisse à la théologie son domaine et à la mystique, ou y a-t-il des interpénétrations?
Disons, je n'aurais pas les compétences pour trancher. Je note simplement que pour les théologiens qui s'occupent du rêve, il n'y a pas de frontière possible avec la psychanalyse, puisqu'au fond, le rêveur est tout entier orienté vers son avenir eschatologique, bien sûr. C'est ça qui l'intéresse, et il n'est pas question de son désir personnel, alors que dans la psychanalyse, c'est au fond le désir individuel, contrarié ou pas, qui est quand même à la racine du rêve. Donc il y a au départ une interprétation très très différente.
Ah oui, non, mais nous pourrions simplement, en guise de conclusion, dire que l'état de rêve est un autre état, tout simplement, qui est rapporté au moment du réveil. Parce qu'au moment où nous rêvons, il nous semble que nous vivons les choses d'une manière cohérente. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'on est en train de rêver?
Pas forcément, c'est pas ça. Forcément. Par contre, on se réveille. Donc, l'intérêt du rêve, c'est ce qu'on en fait au moment où on se réveille et au moment où on raconte son rêve. C'est déjà autre chose, justement. On est en train de l'interpréter.
Et celui qui a rapporté au prophète qu'il a vu sa tête rouler, donc il y a une sorte d'approche plutôt non logique. On peut pas voir sa tête rouler même en rêve.
Même
donc
en rêve.
L'univers onirique reste un univers rationnel. Ou en tout cas au moins logique.
Oui, c'est ça. Donc le prophète a refusé ce rêve, a refusé que ce rêve soit interprété comme un rêve saint. Voilà.
Pierre Laurie, je vous remercie infiniment de nous avoir édifiés sur le rêve, sur ses interprétations, sur l'onirocritique islamique. C'était Culture d'Islam par Khaled Bencher, et aujourd'hui nous avons parlé du rêve. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché de production, Dominique Campetissa. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Manuel Couturier, et la réalisation toujours par Franck Lilin.
Thank you.
Mm-hmm.